Shavuot Tov. Je vais parler ce soir de la notion d'héritage. Par rapport à deux sujets, essentiellement par rapport à la terre et par rapport à la Torah. Alors je vais d'abord dire deux mots sur la notion d'héritage. Pour nous, pour beaucoup de monde aussi, héritage veut dire on parle d'une notion de transmission. Ce dont on va parler en termes d'héritage, c'est de transmission. C'est donc quelque chose qui vient du passé, qu'on n'a éventuellement pas choisi, qu'on n'a pas toujours même conscience. Et c'est quelque chose dont il va falloir faire quelque chose d'autre. Si je garde cet héritage, si je le garde pour moi, ça ne donnera rien du tout. Il faudra le transmettre. Il faudra choisir évidemment à qui on le transmet. Et le transmettre de telle sorte que cet héritage permette d'ouvrir un futur. Bon. Alors, on va commencer par le commencement. Je vais essayer de décrire un peu la situation. On est après le déluge. Les trois fils de Noé se sont partagés le monde. En particulier, le territoire qui va devenir le territoire d'Israël, qui va s'appeler dans la Torah toujours Eretz Kenan, le pays de Kenan. Ce territoire-là, il appartient à Shem. Seulement, il y a eu des guerres, et les Cananéens, qui ne sont pas des Sémites, qui sont les descendants de Ham, ont gagné la guerre contre les Sémites, et ils ont pris la terre, comme c'était l'habitude. Et la terre va s'appeler dès lors Eretz Kenaan, le pays de Kenaan. Paradoxalement, c'est les Cananéens qui ont conquis cette terre par la guerre. Quand les Bnei Israël vont faire la guerre contre eux et vont conquérir à leur tour cette terre par la guerre, ils vont dire aux Bnei Israël, vous êtes des voleurs, vous prenez notre terre. Avec oubli complet de ce que ce pays n'a jamais appartenu, si vous voulez, à Canaan, si ce n'est en appliquant les lois de la guerre, c'est-à-dire si on considère que qu'un pays qui a gagné la guerre fait main basse sur le territoire du pays vaincu. La première occurrence de cette terre de Canaan, elle figure dans la paracha qu'on a lue aujourd'hui. Pasouk dit Vaikach Avram, il s'appelle à ce moment-là seulement encore Avram, il prend Sarai, son épouse, Lot, son neveu et son beau-frère, et tous leurs biens, tout ce qu'ils ont accumulé à Haran, là où ils étaient arrivés avec Terah, Vayetsu, et ils sont sortis de Haran pour aller en direction de Canaan. Ils sont arrivés à Canaan. Pourquoi ils sont allés là-bas? Parce que bien que la promesse au début qu'Hachem avait faite à Abraham était formulée « El haaretz asher areka », le pays que je te montrerai, Hachem n'a pas voulu dire tout de suite à Abraham, quel saint pays. Mais le Rachaim explique qu'entre temps, il le lui a dit. Et donc, ils savent où ils vont. Ils vont vers le sud. Ils vont vers Eretz Kenan. C'est la première occurrence. Et la première occurrence d'une promesse qui est faite concernant cette terre à Abraham Avinu, elle est juste au verset après, celui que je vous ai lu. Pasuk dit que Abraham a, Vayavor Abraham, Baaretz, Admekom Shrem, Abraham a penetré dans le territoire de Canaan jusqu'à Shrem, Shrem c'est la pelouse, Ad Elon Moré, là où étaient les amis d'Abraham, et on nous dit alors que le Cananéen était vraiment encore dans le pays, et Hachem se dévoile alors à Abraham et il lui dit, Bezaracha, à ta descendance, etenet haaretzazot, je donnerai cette terre. Et Abraham, en reconnaissance, il construit un autel pour Hachem qui s'est dévoilé à lui. Donc il y a une promesse qui est faite. Hachem dit à Abraham, je te donnerai cette terre. Enfin, je la donnerai à ta descendance. Donc Abraham a reçu cette promesse de terre. Effectivement, il a parcouru la terre, à gauche, à droite. C'est une façon d'acquérir la terre, en quelque sorte. Et puis, dans le cadeau de la terre, il y a immédiatement une famine. Et Abraham décide de descendre en Égypte, où il n'y avait pas de famine. Il quitte donc cette terre qui lui a été donnée. C'est diversement apprécié par les commentateurs. En particulier le Ramban, il est extrêmement critique sur Abraham. Il dit qu'Abraham a fait une erreur, une énorme erreur. D'autant que vous savez bien que quand Abraham va arriver en Égypte, il y aura tout le problème de sa femme. Sarah, qui était une très très belle femme, et les sbires de Paro l'ont vu arriver, et ils l'ont prise pour Paro. Donc, il a pris le risque. Enfin, en descendant en Égypte, il a quasiment envoyé sa femme dans le harem de Paro. Le Ramban va jusqu'à dire que c'est parce qu'Abraham est descendu en Égypte, ici, que les Bnei Israël devront descendre en Égypte au temps de Yaakov Avinu, et passer cette période d'exil, d'esclavage en Égypte. Donc il lui met tout sur la faute d'Abraham. Très très critique. Abraham, il a bénéficié d'un miracle qui a été fait pour Sarah. Il récupère Sarah, indemne, et il récupère énormément de richesses. Il a été couvert de richesses parce qu'il s'était présenté comme étant le frère de Sarah. Donc pour obtenir les bonnes grâces du frère de Sarah, quand Paro voulait épouser la sœur d'Abraham, celle qu'il présentait comme sa sœur, il a été couvert de richesses. Et quand Paro a renvoyé Sarah et Abraham, il les a de nouveau recouverts de richesses. Il a donné en particulier à Sarah une province. Il a donné la province de Goshen, qui est la province où Yosef il aurait voulu que ses frères, quand ils sont descendus en Égypte, que ses frères s'y installent. Alors ils y sont allés, mais ils ont débordé et ça a donné les ennuis qu'on sait. Il est très riche et je ne sais pas exactement pourquoi, mais Lot, qui accompagne Abraham, est lui aussi extrêmement riche. Alors ils reviennent sur la terre de Canaan, ce que nous on appelle Eretz Israël, Et puis, vous savez bien qu'il y a eu ces fameuses disputes entre les bergers de Lot et ceux d'Abraham. Les bergers de Lot considéraient que puisque Abraham n'avait pas d'héritier, son héritier, enfin d'enfant comme héritier, son héritier ce serait Lot, et que par conséquent il pouvait déjà utiliser les terres d'Abraham, puisque demain elles seraient à Lot. Il n'était pas halakhiquement acceptable. Et donc Abraham a proposé à Lot, il lui a dit, écoute, cette terre ne peut pas nous supporter tous les deux, il faut qu'on se sépare, alors tu choisis. Si tu vas à gauche, j'irai à droite, si tu vas à droite, j'irai à gauche. En tout cas, Lot choisit, il va au nord. Il va au nord vers le pays, enfin le territoire de Sdom. Sdom, avant qu'Hachem détruise Sdom, c'était un paradis. Lot a regardé, avant de faire son choix, il a regardé, le pasouk dit, Vaïssa Lot et Enav, Lot a levé les yeux, il a vu tout le Jourdain, il a vu tout ce qui était autour de tout ce territoire-là, qui était parfaitement irrigué, qui était la verdure, c'était un jardin, littéralement. Et il a choisi cela. Il est allé, il a choisi l'endroit qui lui paraissait le plus riche et le plus intéressant. Et donc, Abraham, lui, il a eu ce qu'il voulait, en fait. Il voulait de toute manière aller dans le Negev, au sud. Traditionnellement, en se basant sur ce qui s'est passé au Mishkan, dans le Mishkan, dans le tabernacle, mais ça s'est passé comme ça dans le tabernacle parce que ça correspond à certaines réalités, on considère que le nord, c'est la direction vers laquelle il faut se tourner, par exemple dans sa prière, quand on veut prier pour le matériel, pour la richesse, et le sud, la direction vers laquelle il faut prier, quand on veut prier pour la sagesse. Donc Abraham a choisi le côté sagesse et l'autre le côté richesse. Bon, il faut que je fasse ici une petite parenthèse. Le pasouk dit, il a choisi effectivement cet endroit qui était un endroit merveilleux, mais le pasouk dit, Anshei Sdom ra'im v'chata'im l'Hashem me'od. Les gens de Sdom étaient très très mauvais. Et par rapport aux valeurs d'Hachem, en quelque sorte, ils étaient extrêmement mauvais. Me'od dans la Torah, ça veut toujours dire au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Alors ce choix-là, finalement, qui est un choix qui se présente comme un choix économique, si vous voulez. Nos maîtres, probablement en s'appuyant sur ce verset-là, les Chachamim ont lu différemment ce verset. Ce verset qui dit que Lot a levé les yeux, il a vu, etc. Ils l'ont interprété différemment. Ils ont interprété qu'en fait, ce que Lot voulait, c'était en réalité se séparer d'Abraham. Il avait envie de pouvoir vivre comme il le voulait. Dans certains textes, on dit qu'en fait, il voulait revenir à une pratique idolâtre, qui était la pratique des gens de Sdom. Et surtout, il voulait pouvoir se permettre tout ce dont il avait envie, en fait. On sait que Hachem a décidé, à un moment donné, il a décidé de détruire Sdom, comme vous savez. Il a communiqué sa décision à Abraham, qui a prié pour essayer de sauver les gens de Lot, de Sdom. Ça n'a pas marché. Alors, Sdom a été complètement détruite. Pas seulement Sdom, Amora, les villes alentours. Et tout a été détruit. Lot a été sauvé par le mérite d'Abraham. Lot, et a priori, sa famille pouvait être sauvée, mais les enfants de Lot, les gendres, etc., ils se sont moqués de lui quand il a dit que ça allait être détruit, qu'il fallait partir. Et Lot est parti avec son épouse et deux de ses filles. Les deux filles qui n'étaient pas mariées. Vous savez bien ce qui est arrivé. Les filles ont pensé que elles étaient les seules survivantes et qu'elles étaient seules au monde. Et qu'il leur incombait d'assurer la pérennité de l'espèce. Or ça ne pouvait se faire qu'avec le seul homme disponible, c'est-à-dire leur père. Elles ont pensé qu'ils ne seraient pas d'accord. Et elles l'ont enivré. Et elles lui ont forcé la main, en quelque sorte. Et donc, deux enfants sont nés de ces incestes qui sont que les filles ont appelé, le premier elles l'ont appelé Moav, je veux dire de mon père, donc là l'aîné elle annonce la couleur, et le second, ben, le nom était déjà pris, le premier, donc elle l'a appelé de mon peuple. Alors il y a une discussion très intéressante dans la Gemara. La Gemara, elle veut dire que les filles de Lot, dans ce qu'elles ont fait, elles sont des tzadkaniot, elles sont des justes. Et que, au contraire, Lot, lui, c'est un pourri. La Gemara, elle fait remarquer que quand la Torah décrit ce qui s'est passé, elle dit qu'après le premier inceste, Lot n'a rien, bon, durant l'inceste il a rien, il était complètement sous, et quand quand la première s'est relevée en quelque sorte, le verset dit, il s'est rendu compte de rien, mais en fait il y a un petit point sur le mot, quand elle s'est levée, et de ce point on apprend que à ce moment-là, Lot a compris quand même qu'il s'était passé quelque chose. Alors les Chachamim disent que du coup, le deuxième soir, il n'aurait jamais dû accepter de se laisser enivrer. Et donc, s'il s'est laissé enivrer, c'est qu'il savait très bien ce qui allait se passer et qu'il le voulait. Il y avait donc chez lui un désir d'inceste. Et pour appuyer cette thèse, bon, c'est pas notre sujet, mais les Chachamim lisent ce verset que je vous ai lu, dans lequel Lot choisit le territoire de Sdom, en fait. Cette description, il a levé les yeux, etc., il a vu, etc. Les Chachamim vont expliquer, ils vont prendre ce verset, et ils vont prendre chacun des mots constituant ce verset, et ils vont associer à ce mot ce même mot, mais dans un autre contexte. Et ils associent ce mot partout dans des contextes qui sont des contextes d'immoralité. L'un des mots est, par exemple, associé au récit de la stratégie de Madame Potiphar pour conquérir Yosef. Et donc on dit ici que derrière cette volonté qui se présente comme une volonté de richesse simplement, il y a de façon consciente ou inconsciente, subconsciente ou encore quelque chose d'autre, peu importe, il y a une volonté chez lui de tout se permettre, y compris l'inceste. Et c'est pour ça que les Chachamim se permettent de dire qu'en réalité c'est un pourri. Lui, il voulait cet inceste. Et bon, alors, il n'osait pas, ou il c'était pas aussi clair au sens où il n'allait pas le dire ouvertement. Mais quand il a compris qu'il y avait une possibilité d'avoir un inceste, ça ne l'a pas dérangé. Il s'est laissé enivrer. Ça, c'est Lot. Et les deux enfants qui sont nés ici vont donner naissance à deux peuples qui vont jouer un rôle très important, parce que ces deux peuples vont donner naissance à deux femmes qui vont être dans la chaîne du Mashiach. Excusez du peu. Bon. Moab va donner naissance à Ruth. Et Amon, Anahama, c'est Ruth, tout le monde sait qui c'est l'aïeul de David, du roi David, donc l'aïeul du Mashiach. Et cette Naama, c'est la mère de Rehovam, c'est-à-dire c'est une des femmes du roi Shlomo, celle qui donc a donné naissance à Rehovam, qui est le successeur de Shlomo sur le trône, qui est celui qui a provoqué le schisme en réalité. Mais il y a une assurance qui avait été donnée à David et à Shlomo que la chaîne du Mashiach passerait par Rehovam, en quelque sorte. Et donc par sa mère. Donc ces deux femmes-là, produites d'un inceste, elles sont des femmes, quelques-unes des personnes dont on sait que la chaîne du Mashiach passe par elle. C'est tout. No comment. Ensuite, Hachem va repromettre. Ah oui, alors. Donc. Repromettre encore une fois à Abraham, après la séparation de Lot. Il lui repromet encore une fois la terre. Je te la donnerai à toi et à tes descendants. Et il lui annonce que il aura une descendance absolument faramineuse, comparable à la poussière de la terre, puis ensuite aux étoiles du ciel. Et ensuite, il y a un événement qui, a priori, ne nous concerne pas. Mais comme toujours, tout concerne toujours les Juifs, donc ils vont arriver là-dedans aussi. Il y a une guerre. La guerre, si vous connaissez, c'est la guerre des cinq rois contre les quatre. On peut dire que c'est en fait la guerre des quatre contre les cinq. Il y a cinq royaumes qui en fait doivent un tribut à quatre autres royaumes. Et un jour, ils décident de se révolter. Donc, les suzerains leur font la guerre. Et les quatre gagnent la guerre. Donc ceux qui ont essayé de se révolter donc perdent la guerre. Parmi ceux qui se sont révoltés, il y a le roi de Sodome. Ils perdent la guerre. Les autres donc raflent tout le butin, tous les hommes, etc. Et les gens de Sodome ont soufflé aux vainqueurs qu'en réalité, si eux s'étaient révoltés, c'était en fait toute la faute de Lot. C'est Lot qui les a conseillés de se révolter, donc c'est tout ça, c'est de la faute de Lot. Alors on a mis Lot en cage. C'est exposé. La réalité, pourquoi est-ce qu'on a mis en cage au fond? C'est parce que les gens de Sodome savaient très bien que les autres aussi, tout le monde en avait marre de cet Abraham-là, qui nous raconte, qui nous empêche de vivre comme on a envie de vivre, qui nous critique sans arrêt, qui a des valeurs qui ne sont pas les nôtres, etc. Tout le monde voulait bien qu'ils disparaissent. Ils ont pensé à un certain moment, quand ils ont fait la guerre, ils ont pensé qu'ils avaient capturé Abraham, donc aux anges, ils se sont trompés. C'était seulement Lot. Lot ressemblait beaucoup à Abraham, donc ils avaient capturé Lot. Ils l'ont exposé. en se disant que Abraham allait entendre que son neveu, beau-frère, était prisonnier, qu'il n'allait pas rester là les bras ballants, et qu'il allait venir faire la guerre. Et que lui, tout seul, quasiment contre, disons, au moins les quatre rois, il n'avait aucune chance, ils allaient pouvoir enfin le tuer. Et enfin, on en aurait terminé avec Abraham. Alors, effectivement, Abraham Avinu a appris que Lot était prisonnier. Alors, il y a une espèce d'anecdote, enfin, qui est très importante quand même, qui nous dit qu'en fait, comment est-ce qu'Abraham l'a su? Bon, pas de SMS, il n'y a rien, tout. Il y a un fuyard, quelqu'un qui est présenté comme le fuyard, qui est venu le lui dire. Ce fuyard en question, c'est un géant, il s'appelle Og. Alors, Og est venu dire à Abraham que Lot était prisonnier. Comme c'était un géant, ça n'a pas dû lui prendre beaucoup de temps. Il est venu rapidement le dire à Abraham. Pourquoi est-ce qu'il est venu le dire? Nous, on a l'impression que c'est un tzaddik, n'est-ce pas? Il est venu dire, écoute, ton neveu est prisonnier, il faut que tu fasses quelque chose. Les Chachamim disent, c'est pas tout à fait comme ça. Og, il avait un petit projet. Lui, il avait décidé qu'il allait épouser Sarah. Sarah était une très belle femme, comme je vous ai dit, on dit que c'est une des quatre plus belles femmes du monde. Og voulait l'épouser, mais le problème, c'est qu'il y avait Abraham. Donc lui, quand il est venu dire à Abraham d'aller faire la guerre pour délivrer Lot, il pensait comme les autres, que Abraham tout seul, il allait perdre la guerre, il allait tuer, et le chemin serait libre pour lui, pour Og, pour épouser Sarah. Et il faut dire, ici, il y a une chose très intéressante, c'est un sujet pour soi, mais ça fait rien, ça vaut la peine de réfléchir un peu. Bien plus tard, ce Og, il va devenir Og Melech HaBashan, il est le roi du pays de Bashan. Bashan, c'était une puissance militaire, et cette puissance militaire, les Bnei Israël qui sortaient donc d'Égypte, qui allaient entrer en Eretz Israël, ils avaient à l'affronter, ils devaient faire la guerre contre cette puissance militaire. Et la Chazal nous dit que Moshe Rabbeinu avait extrêmement peur. Il avait très 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 peur de faire la guerre contre Og. Pourquoi? Parce que Og avait un mérite. Il avait le mérite d'avoir dit à Abraham que Lot était prisonnier. Ça veut dire que ce mérite était... Moshe Rabbeinu savait très bien évaluer les choses. Si Moshe Rabbeinu lui-même a peur de faire la guerre qu'il est obligé de faire contre Og, il a peur parce qu'il a un mérite. Et quel mérite? Ce type-là, il est allé dire à Abraham, il voulait sa femme, c'est ce qu'il voulait, c'est qu'il meure et qu'il puisse épouser sa femme. Ici, on voit très bien une chose, c'est quand on fait une mitzvah, ou quand on fait une bonne chose, la mitzvah ou la bonne chose nous dépasse tellement que même si nos motivations ne sont pas à la hauteur, la bonne chose ou la mitzvah, elle a tout son pouvoir. C'est ça qui faisait peur à Moshe Rabbeinu. C'est vrai qu'il avait des motivations annexes, mais finalement, il a fait quelque chose qui était bien. Il a permis à Abraham d'aller délivrer Lot. Ah, il l'a fait avec des mauvaises motivations. Là, c'est un truc, d'accord, c'est un humain. Mais la chose en elle-même est une grande chose. C'est la même chose avec toutes les mitzvot, quand on les fait de façon imparfaite, on pourrait penser qu'elles n'ont pas beaucoup de valeur. La mitzvah, elle reste avec toute sa valeur. Nous, dans notre compte personnel, alors ça ne sera pas fait comme si on l'avait fait de la bonne façon, mais dans son impact sur le monde, il est là. c'est un sujet en soi. Abraham Avinu, quand il a fait la guerre, il l'a fait d'une manière bien particulière. Abraham Avinu ne voulait pas salir les mains. Quand on fait la guerre, on salit les mains. Et Abraham Avinu, il devait faire la guerre, mais il ne voulait pas utiliser, comme on dit, les armes de l'ennemi, etc. Alors il a fait la guerre de la manière suivante. Le Midrash raconte que Abraham Avinu, de son côté, il a pris de la poussière et de la paille et il les a jetés en direction de l'ennemi. C'était ça son geste. C'est comme ça que lui, il attaquait. Sur les ennemis, c'est tombé comme ça devait tomber, sous forme de lances, etc. Ça, c'est un problème d'Hachem. Et eux, quand ils lui ont envoyé de véritables armes, sur lui, c'est tombé sous forme de paille et de poussière. À part ça, on sait très bien que il est allé avec, il avait ses fameux 318 guerriers, dont certains disent qu'en vérité, il n'y en avait qu'un seul, c'est-à-dire Eliezer, et que 318, c'est la valeur numérique d'Eliezer. Donc c'est pour ça qu'on a dit 318, mais en fait, il était tout seul avec Eliezer à faire la guerre. Mais même pour ça, dans l'hypothèse où il a mobilisé 318 personnes pour aller faire une guerre qu'il fallait faire, la Torah, enfin, Chazal font des reproches à Abraham Avinu. Il a pris des gens qui étaient ses élèves et qui étaient censés étudier. Et il les a mobilisés pour aller faire la guerre. Donc Abraham est sanctionné en quelque sorte pour avoir enlevé des gens qui étaient à l'étude pour les avoir envoyés faire la guerre, faire une guerre qu'il fallait faire. Mais tu ne devais pas démobiliser les gens. Les gens étaient mobilisés à l'étude, tu ne peux pas maintenant les mobiliser pour aller faire la guerre. Ce qui lui a été reproché. Cette guerre, comme je vous ai dit, a priori, ne nous concerne pas. Il s'est trouvé que Abraham et Lot étaient concernés, mais la guerre en elle-même ne nous concernait pas. Mais il y a une Gemara au début d'Avodah Zarah où Hachem dit « La guerre, c'est moi. C'est moi qui décide de faire les guerres. » À un moment donné, certains peuples ont voulu se dire que grâce à la guerre, ils ont fait avancer l'humanité, etc. Hachem dit « Non, la guerre, c'est pas votre mérite, c'est moi. » Donc cette guerre-là, c'était donc Hachem. La guerre des quatre contre les cinq, c'est Hachem. Et si c'est Hachem, alors c'est évidemment une épreuve pour Abraham. D'accord ? Parce que c'est Hachem qui a fait qu'il y ait une guerre ici. C'est une épreuve pour Abraham. La question pour Abraham, c'était, est-ce que Abraham va s'occuper de Lot, bien que Lot ait choisi ce d'homme, d'accord, il a choisi d'aller du mauvais côté, en quelque sorte. Est-ce que Abraham va quand même aller le chercher, là, ou est-ce qu'il va l'abandonner? Et deuxièmement, c'était donc la question, comment, s'il va le chercher, il faut faire la guerre, comment, avec quelles armes, je vous ai dit, quels guerriers, et surtout, après avoir gagné cette guerre, qui était a priori ingagnable, on ne pouvait pas la gagner, il ne pouvait pas, lui tout seul, ou avec 318 personnes, vaincre les quatre royaumes qui étaient suffisamment forts pour avoir battu cinq autres royaumes. Il avait, sur le papier, aucune chance. Donc c'est étonnant. Alors Abraham Avinu a eu très peur d'avoir utilisé en quelque sorte son capital de mérite pour gagner cette guerre a priori ingagnable. Alors Hachem le rassure et il lui dit, il lui repromet la terre. Il lui dit, Al tira Avram, n'aie pas peur Avram, je te protège, je suis ton bouclier. Et ton salaire est extrêmement grand. Alors Abraham dit à Hachem, Hachem Elohim lui dit, Matitenli, qu'est-ce que tu vas me donner? Qu'est-ce que c'est que ce salaire dont tu me parles? Va'anochi olech hariri. Je n'ai pas d'enfant. Ou ven meshek beti ou d'un meshek Eliezer. Et mon intendant, c'est Eliezer de Damas. C'est lui qui va hériter. A priori. Alors Hachem lui a dit, Lo irashraze. Eliezer ne sera pas ton héritier. Celui qui sera ton héritier, ce sera quelqu'un, bon, c'est une figure qui sera issue de tes entrailles. On parle à un homme ici, mais bon, c'est une image. C'est lui qui sera ton héritier. Jusque-là, Abraham ne critique pas la promesse qui lui est faite de la terre. Hachem lui promet la terre, ok. Promet la terre, ok. Encore, sans arrêt. Mais maintenant, Hachem, en lui disant, il lui dit, c'est pas Eliezer qui va hériter. Il lui dit, maintenant, c'est quelqu'un. Tu auras un de tes enfants. Et il l'a amené à l'extérieur, enfin il lui a dit de sortir, il lui a dit de regarder le ciel, et il lui a dit, ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Et Abraham lui a fait confiance. Et c'est considéré comme dans Zdaka, comme c'est une bonne chose que Abraham a faite là. Seulement ici, Hachem ajoute, Ani Hachem, Asher Otsetiha Meokazdim, je suis Hachem qui t'ai fait sortir de Ur en Chaldée, là où tu étais avec ton père, la tête lecha et ta ares azot, pour te donner cette terre, jusque-là, il l'avait déjà dit plusieurs fois, mais il ajoute le rishta, je te la donne en héritage. Alors c'est ça la question que je me suis posée. Je me suis demandé, qu'est-ce qu'il ajoute là en disant qu'il va donner la terre en héritage? S'il a donné la terre à Abraham, alors c'est sûr, Abraham est le propriétaire de la terre, il va pouvoir en faire hériter ses descendants. Pourquoi il ajoute le rishta? Donc on est obligé de réfléchir un petit peu sur cette notion d'héritage. Parce qu'Abraham demande à Hachem, il lui dit, tu me dis que je l'aurai en héritage, mais comment saurais-je que je l'aurai en héritage? Il demande, avec quoi? Donne-moi un signe. Il lui dit, Bama Eda ki Rachena. Par quoi saurais-je que je vais en hériter? Dans la Torah, la notion d'héritage, encore d'une certaine manière, ça se dit aussi nachala, c'est quelque chose qui coule tout seul. L'héritage, c'est mourir, on fera le reste, quoi. Ça veut dire, ça marche tout seul. Et on ne peut pas modifier l'héritage en tant que tel. Sur l'héritage lui-même, l'homme est impuissant. On peut faire des donations avant, etc. Mais si ça fonctionne par l'héritage, on ne peut pas dire que dans l'héritage, je veux que ça soit comme ça, comme ça. L'héritage, ce n'est pas toi qui décides. L'héritage, ça coule tout seul. Lui, la terre qu'il lui donne en héritage, le rishta pour en hériter. A priori, quand on reçoit quelque chose en héritage, c'est que quelqu'un vous l'a donné. Le propriétaire antérieur vous l'a donné. Donc cet héritage-là, qu'Abraham va recevoir, celui qui le lui donne, c'est Hachem, bien sûr. Hachem lui donne cet héritage. Donc, il le lui donne, comment est-ce qu'il lui donne? Il donne par les mots qu'il lui dit. Il dit, voilà, je te les donne. C'est ça, ça veut dire que, pour nous, contrairement à ce qu'on, tout le monde rapporte toujours ce mot de René Charge, notre héritage à nous, il est effectivement précédé d'un testament. C'est-à-dire, on a un texte avant. Parce que notre héritage, il est, d'abord, il y a un texte. C'est ce texte qui fonde l'héritage. Il y a un petit problème, c'est que le mot le rishta, il a l'air de... c'est pas la Yerusha où ça coule tout seul. Le rishta, on a l'impression qu'il faut faire quelque chose pour en hériter. Ça veut dire que c'est comme si c'était un héritage forme faible. C'est-à-dire, ça coule pas tout seul. Il faut que tu fasses quelque chose. On aura la même chose sur la Torah. Vous savez, tout le monde sait, c'est que quand un enfant apprend à parler, la première chose qu'on doit apprendre à son enfant, c'est Torah tziva lanu Moshe, Morasha Keilat Yaakov. La Torah, elle nous a été ordonnée par Moshe, c'est un héritage de la maison de Yaakov. C'est les premiers mots qu'on enseigne à son enfant. Et là-bas, on parle d'héritage, mais là aussi, c'est pas marqué Yerusha. C'est écrit Morasha. Et Morasha, comme le Rishta ici, ça donne à penser, le Netziv l'explique largement, qu'il y a quelque chose à faire. L'héritage de la Torah non plus, il ne va pas couler comme ça. D'accord? Les enfants de Talmidei Chachamim ne sont pas Talmidei Chachamim parce que leur père était Talmid Chacham. Il y a quelque chose à faire pour ça. Et donc, c'est deux fois une notion d'héritage, mais, je dirais, un héritage, forme faible de l'héritage. Il y a donc quelque chose à faire. Ouais, mais quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vois une partie de l'idée ici que j'ai développée, je la dois à mon fils Yitzhak, je lui en avais parlé, c'est quand lui qui a formulé les choses que... Bon, il a présenté les choses et il les a formulées. Ça m'a beaucoup aidé. On peut dire que la question d'Abraham Avinu, Bama Eda ki Irashena, c'est qu'en fait, ce que demande Abraham Avinu, tu m'as promis la terre, ok, c'est bon. Mais en quoi cette terre sera-t-elle plus qu'une terre? Une terre, ça permet de cultiver des poireaux, des pommes de terre, ce que vous voulez. Sur cette terre, on peut éventuellement construire, mais en quoi est-ce que ça va m'aider spirituellement? Cette terre. Bamaïda, qui irachena. Cette Yerusha, c'est bien plus, c'est une dimension supplémentaire. Comme je vous ai dit, c'est un héritage. Un héritage, c'est, on le reçoit pour en faire quelque chose. Comment cette terre-là, qu'est-ce que je vais pouvoir faire de plus avec cette terre que de l'utiliser comme terre? C'est-à-dire comme tout le monde. C'est la question qu'Abraham Avinu a posée à Hachem. Hachem répond à Abraham Avinu. Il lui répond... Ce que tu vas devoir faire, c'est avoir un rapport avec cette terre complètement différent du rapport qu'un peuple a, que les autres peuples ont avec leur terre. Ce que tu vas devoir faire, cette terre, elle va te permettre, par exemple, d'apporter des corbanotes, des offrandes pour Hachem. Cette terre, pour que ton rapport avec cette terre soit différent, c'est un rapport avec la terre d'Israël qui va toujours être exigé de la part de Bnei Israël. C'est la terre est à vous. Elle appartient au Bnei Israël. Mais ne vous considérez pas comme les propriétaires. Ne vous comportez pas comme des propriétaires. Vous êtes sur cette terre pour y faire quelque chose, pour utiliser cette terre pour un développement spirituel, on va voir. Et cette terre, elle ne vous est donnée que sous ces conditions-là. C'est une terre qui va vous vomir si vous ne vous conformez pas aux lois que la Torah vous impose. Effectivement, la terre a vomi les Bnei Israël quand ils ont cessé de se comporter comme ils auraient dû se comporter selon les lois de la Torah. C'est un rapport particulier. Toutes les années sabbatiques, tous les 7 ans, les autres peuvent venir dans vos champs et se servir. Vous n'êtes pas plus propriétaire qu'eux. Vous ne pouvez pas continuer de travailler les champs comme on... La terre, elle doit se reposer. Il faut reconnaître à la terre quelque chose comme un Shabbat de la terre. Il y a un Shabbat des hommes et il y a un Shabbat de la terre. La terre a droit à son Shabbat. Et ensuite, ce qu'Hachem, dans un verset suivant, quelques versets suivants, plus tard, pardon, Hachem dit à Avraham, m'a demandé comment tu vas savoir. Yado ateda, sache, ki ger yezaracha be'eretz lo lahem, va'avadum v'inuotam arba meot shana. Hachem dit à Abraham, tu veux savoir? Mais voilà. Ta descendance, avant d'accéder à la terre, ils seront d'abord étrangers, dans un pays qui n'est pas le leur. On va les réduire en esclavage, on va les faire souffrir 400 ans. Ensuite, je jugerai, dit Hachem, le peuple qui a exagéré dans cette mise en esclavage. Toi, tu vas mourir en paix. Et donc, 4 générations après toi, la 4e génération reviendra sur cette terre après l'exil. Donc, curieusement, pour acquérir cette terre, il faut d'abord s'exiler de cette terre qu'on n'a même pas pris réellement en main. On commence par un exil. Alors ça, on connaît. On peut peut-être penser, pour répondre un peu à l'accusation du Ramban contre Avraham Avinu, que la descente en Égypte d'Avraham c'est qu'Avraham, peut-être même sans en avoir pleinement conscience, il a pavé le chemin pour que les Bnei Israël descendent en Égypte, mais qu'ils remontent aussi. Ils sont remontés, et de même que lui, il est remonté extrêmement riche, les Bnei Israël, quand ils remontent, quand ils sortent d'Égypte, c'est aussi, ils sortent avec le fameux Rechush Gadol, avec le fameux très grand butin. Quand ils sortent avec quelque chose de, avec des richesses fabuleuses qui vont leur permettre, entre autres, par exemple, de construire le Mishkan. D'accord. D'où ils ont pris leur or, l'argent, etc., de tout ce qui va servir à construire le Mishkan. Il faut bien qu'ils l'aident quelque part. Ça, c'était dans le butin. Ils ont, c'est le butin de l'Égypte, c'est le butin du passage de la, du passage de la mer. L'exil, le galout, en fait, c'est là aussi, si vous voulez, c'est une forme, de nouveau, une forme faible de mort. Nous venez Israël, en fait, nous sommes spécialistes de l'exil. Avant d'avoir la terre, il faut être exilé par rapport à cette terre. Mais avant d'être un peuple, on est d'abord en exil. Les Bnei Israël n'étaient pas encore un peuple quand ils étaient en Égypte. C'est une famille qui descend en Égypte. Et quand ils sortent de l'Égypte, ils sont en train de commencer à être un peuple. Ils ne deviendront un peuple, c'est-à-dire ils auront cette forme d'unité que quand ils seront au Sinaï, quand ils vont recevoir la Torah. Mais on a déjà été en exil avant. Avant d'être un peuple. Quelque part, c'est comme si on avait la mort derrière nous. Et on a la mort derrière nous. Le clan d'Israël, le peuple juif, il est sorti de la mort d'une certaine manière. Je l'explique juste brièvement, parce qu'on en a déjà parlé souvent. Lorsqu'Abraham a dit à Nimrod qu'il allait devenir un peuple pour servir Hachem, etc., Nimrod lui a dit, tu dis n'importe quoi. Les astrologues disent qu'Avram, c'était à ce moment-là, il s'appelait Avram, qu'Avram n'aura pas d'enfant. Tu n'auras jamais d'enfant. Donc, qu'est-ce que tu me racontes? Tu vas devenir un grand peuple. N'importe quoi. Quand Moshe Rabbeinu s'est tenu devant Paro, et qu'il a dit on va sortir pour servir Hachem, etc., Paro lui a dit, les astrologues égyptiens, ils disent que vous avez la planète rouge dans votre thème astral. C'est la mort. Ra'a, la mort devant vous. Et quand Abraham, quand Hachem a confirmé à Abraham ce que disait Nimrod, oui, tu n'auras pas d'enfant, tu es stérile. Mais, c'est mistagninu tchelcha. Sors de ton déterminisme astral. Il y a un déterminisme, mais tu peux en sortir. Il est là seulement si tu le laisses être déterminisme. Si tu ne veux pas, tu peux en sortir. Et il lui a dit, pour en sortir, je vais t'aider à sortir, il lui a fait une alliance avec lui. Une alliance dont le signe extérieur de l'alliance, c'est la Mila, c'est la circoncision. Mais il y a toute une alliance. Alliance, ça veut dire qu'Hachem a élevé l'homme, dans ce sens Abraham, pour qu'il puisse être un partenaire dans une alliance. Parce que sinon, qu'est-ce que c'est qu'une alliance entre Hachem et l'homme? Bon. C'est toujours que quand j'étais plus jeune, quand ça avait, peut-être, je sais pas, il y a peut-être des gens qui ça dira quelque chose. Ce genre d'alliance, c'est à peu près le pacte d'alliance entre l'Albanie et la Chine. Si jamais la Chine était attaquée, l'Albanie viendrait l'aider. Bon, c'est à peu près comme ça. Aujourd'hui, les gens ne savent pas ce que ça veut dire, mais auquel ça dit quelque chose. Alors, il faut d'abord élever le partenaire pour qu'il puisse devenir partenaire de cette alliance. Hachem lui dit, je fais alliance avec toi. Mais sors de ce déterminisme astral et je vais changer ton nom. Les choses ne vont pas changer parce qu'il a changé de nom, c'est le contraire. Je vais mettre ton nom en accord avec les changements que je vais faire désormais, puisque tu acceptes de sortir de ton déterminisme. Et il va s'appeler Abraham, comme vous savez. Ça va lui ajouter une lettre sans, en fait, lui enlever une lettre qui, d'après le texte, était peut-être plus nécessaire. Si maintenant il s'appelle Avramon Goïm, père d'une multitude, le Reish dans Avraham, il n'a pas de raison d'être. Il devrait s'appeler Avram, début de Amon. On a laissé le Reish parce que le Reish, il était quand il s'appelait Avram, c'est-à-dire Ram, c'est élevé. Il était un père élevé, alors il reste les deux choses. Il est à la fois élevé et à la fois le père d'une multitude de peuples. Donc, comme je vous ai dit, on a la mort toujours derrière nous, en quelque sorte. Il a fallu passer par-dessus cette menace de mort. Il a fallu se donner de la vie, en fait. Alors, ça s'est fait en versant du sang. On a donc versé le sang qu'on verse, les gouttes de sang qu'on verse quand il y a circoncision. Ça, c'était Abraham. Et Moshe Rabbeinu, il a refait faire la circoncision à tout le monde, plus le sang de l'agneau pascal, dont on a badigeonné les poteaux et les linteaux. Ici, on voit que on ne peut traiter la mort, donc le sang versé, le rouge, c'est le sang versé, un sang de mort qu'en le transformant en sang de vie. On ne peut pas faire abstraction, dire je ne m'occupe pas de ça. Non, il y a des déterminismes. Il faut faire avec ces déterminismes, les dépasser, les mettre au service d'autre chose. Il y a une question. Une question qui est que Avram, il dit à Hachem, mon héritier ce sera Eliezer, mon intendant. Hazal par ailleurs nous disent que Eliezer était quasiment l'alter ego d'Avram. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ce que son héritier ce soit Eliezer? Il faut que ce soit un fils. Les élèves dans la Torah sont comme les fils. Dans le premier paragraphe du Shema, on parle des fils, on parle de banim. Les Chazal disent de quel fils on parle? Les élèves. Le mot banim dans le premier paragraphe du Shema, il veut dire les élèves et pas le fils. Et les fils peuvent être des fois des élèves, mais tous les élèves ne sont pas des fils. Alors, qu'est-ce qui dérangeait Abraham? Qu'est-ce que ça veut bien de faire? Il est parfait, Eliezer. Alors, je crois que la raison pour laquelle ça ne pouvait pas être Eliezer, c'est celle que Abraham lui a donnée quand Abraham a envoyé Eliezer pour chercher une femme pour Yitzhak. Certains textes disent que Eliezer, il avait une fille. Elle s'appelait Oulai d'ailleurs. Il aurait bien voulu que Yitzhak épouse sa fille. Ce qui sur le papier était parfait, parce que cette fille, elle a été élevée quasiment dans la maison d'Abraham Avinu. Elle n'est pas sa sœur, mais par contre, elle a toutes les mêmes valeurs que Yitzhak. C'est parfait. Et Hachem a dit Abraham a dit à Eliezer, c'est pas possible parce que toi tu es Arour. Eliezer, c'est un Cananéen. Et donc il est Arour, il est maudit de la malédiction que Noach a donnée à Cnan. Quand il y a eu l'histoire avec Noach, Noach a maudit Cnan. Et donc toi tu es Arour. Et moi je suis Baruch et mon fils est Baruch et ça ne peut pas marcher. Entre temps, j'ai vu un enseignement de Moshe Tversky, qui était un des Talmidei Chachamim qui ont été massacrés il n'y a pas si longtemps à Ramot, à Yerushalayim, dans la Choul. À Arnof. Et c'était un énorme Talmid Chacham. Il était massacré. Et j'ai vu dans un Dvar Torah qu'il avait il ramène le Gaon de Vilna. Le Gaon dit que quand on dit que les élèves c'est comme les enfants, c'est seulement si les élèves sont créatifs, ils sont capables de produits sont fructifiants, si vous voulez. Or, il a lu quand Abraham Avinu nous dit mon héritier c'est Eliezer, il dit Eliezer de Damas. Pourquoi il a besoin de dire qu'il est de Damas? Si il était de Beyrouth, ce serait mieux. Alors, il y a une dracha sur Damasek, qui est Dolé ou Mashkim Mitorat Rabo. Et c'est celui qui puise et qui abreuve avec la Torah de son maître. Ça, c'était Eliezer. Celui qui puise la Torah de son maître, et qui la répand, c'est-à-dire qu'il était le meilleur, Abraham avait beaucoup d'élèves, le meilleur des élèves, c'était Eliezer. Seulement, le Gaon explique que il n'était que cela. Il n'était pas capable d'avancer. Il n'était pas capable de créer. Il n'avait pas de pouvoir de chidouche, de renouveler les choses. Il était un parfait transmetteur. Mais on ne pouvait rien faire avec ce qu'il... Il ne transmettait que ce qu'il avait. Il a rien ajouté à ce qu'il a reçu de son maître. Avec ça, on peut comprendre en passant. Bon, je suis désolé, mais ça va faire long. Hein. Mais c'est comme ça, c'est le premier. Après, je. C'est marqué que Haran, avant de quitter son père, Abraham et Sarah ont fait beaucoup de, disons, des convertis. Et la question qui se pose, c'est où sont passés les enfants de ces convertis? Yitzhak, donc le fils d'Abraham, il n'a personne pour jouer au foot. Il n'y a personne. Personne n'est là. Aucun enfant. Où ils sont? Alors, on avait vu dans un shiur de Midrash que tous les convertis hommes se sont appelés Abraham et toutes les converties les femmes se sont appelées Sarah. Donc, je voulais expliquer que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ils ont fusionné avec Abraham et Sarah. Et pour être un élève, il ne faut jamais qu'il y ait de la fusion. Même pour les bons enfants non plus. La fusion, c'est la mort. Parce que dans la fusion, il y en a un qui disparaît dans la fusion. Il faut de l'espace pour transmettre. Et il n'y a pas d'espace pour transmettre. Donc ils n'ont pas eu d'enfants au sens où ils n'ont rien transmis à leurs enfants. Donc les enfants, ils n'étaient plus chez eux. Les enfants n'avaient plus de parents, d'ailleurs, parce que les parents n'existaient plus. Ils étaient fusionnés avec Abraham et Sarah. Et c'est ça la même chose. Eliezer aussi, c'est comme ça. Il est un parfait élève. Enfin, il a tout absorbé. Mais il ne peut rien en faire. Il n'est pas capable d'en faire quoi que ce soit. Il n'y a pas de distance entre Abraham et lui. C'est ça qu'Abraham. C'est ça qui fait que ça ne peut pas être lui. Si c'est lui, on est mort. Il n'y aura pas de transmission. Il n'y aura pas d'héritage. C'est ça l'idée. Ce processus de mort qui est placé avant la vie, en quelque sorte, comme une espèce de condition de la vie. Comme la mort cellulaire, si vous voulez. Sarah est stérile au départ. Vous connaissez l'histoire, elle met Agar dans le tableau. Changement de nom, de nom d'Abraham, on a parlé de ça. Et juste après son changement de nom,
Hachem lui dit Veifreti, ça veut dire qu'il lui donne une bracha qui va fructifier. Mais Abraham, il a déjà plusieurs fois reçu cette bracha. Mais il reçoit cette bracha ici pour qu'il soit à même, qu'il soit capable de faire ce travail. Parce qu'avec son nouveau nom, il est Avhamon Goyim. Il est responsable des autres peuples. Donc il faut qu'il soit capable de ramener les Goyim en question, les peuples en question, à Hachem. Hachem lui dit, il dit à Abraham, ne crois pas que parce que le but d'Ebné Israël, c'est de ramener tout le monde entier vers Hachem, c'est que ce que nous avons dit à Rosh Hashanah et Kippour, d'accord, « Yassou chulam akuda achat lasot retzoncha belevav shalem » que le monde entier s'unisse pour faire la volonté d'Hachem. Encore une fois, par rapport à ce que je viens de dire sur la fusion, une aguda, c'est simplement un lien. Il n'y a pas question de fusion. C'est des liens où chacun reste ce qu'il est, mais il se met avec les autres. Et chacun garde sa spécificité. Ne crois pas que, puisque le but du peuple juif, c'est d'amener l'humanité tout entière à reconnaître Hachem, que du coup, les Bnei Israël, ils n'ont pas besoin de pays. Ils n'ont pas besoin d'avoir un pays à eux. Hachem dit à Abraham, viens, je te donnerai tout le pays de Canaan. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi c'est marqué tout le pays de Canaan? Parce que comme vous savez probablement, les Bnei Israël, quand ils ont conquis Eretz Canaan, ils ont vaincu 7 peuples. Et pas 10. Et il y en a 10, en fait. Ils n'ont vaincu que 7. Donc ils n'ont eu que le territoire de ces 7 peuples-là. Donc il y a toute une partie qu'ils n'ont pas conquis. Ils n'ont pas conquise et ça c'est une promesse pour la fin des temps, en quelque sorte. Ultimement, tout le monde, y compris ceux qui sont plus loin, qui ne vous connaissent pas, etc., tous ces gens-là vont reconnaître Hachem. On voit très bien que il faut faire quelque chose sur cette terre. Je vous ai dit, il faut un nouveau rapport à la terre, il faut les mitzvot à plus haut de Baharet, les mitzvot qui sont liés à ça. Le pasouk au début de Kitavo, il parle, les Bnei Israël vont entrer en Eretz Israël, de quoi on parle? La mitzvah Bikurim. Les prémices. La mitzvah des prémices. Tout de suite, effectivement, tout de suite, il faut faire quelque chose pour, et dans le Bikurim, le discours que fait la reconnaissance que celui qui apporte les prémices fait, c'est, je reconnais tout ce qu'Hachem a fait pour moi dans toute mon histoire, et y compris personnellement pour moi, pour que je sois là. Donc quand Abraham m'a demandé, mais comment cette terre pourrait-elle être plus qu'une terre? Hachem lui a donc répondu, sur cette terre, il faudra avoir un rapport, cette terre, il faudra faire quelque chose d'autre. C'est pas une terre, au sens habituel du terme. Donc tout ça s'est fait pour qu'il n'y ait pas de nationalisme, pour qu'il n'y ait pas de tout ce qui est, toutes les dérives qu'entraîne la possession de la terre au sens habituel du terme, elles sont rendues impossibles si on respecte ces lois-là. Dans l'enseignement, c'est un peu la même chose. Chaque génération doit intégrer l'enseignement de la génération précédente, doit le travailler, cet enseignement, le traduire dans son langage. Je vous rappelle ce que le fameux Pachad Yitzhak, Rabbi Yitzhak Kutner, bon, qui explique que le mot Bechor, qui veut dire premier-né, s'écrit, sa racine, il s'écrit avec Bet Kaf Resh. Bet Kaf et Resh, c'est deux dans les unités, Kaf dans les dizaines, donc deux dans les dizaines, et Resh dans les centaines. Le mot qui veut dire premier-né s'écrit 222. C'est une provocation, hein. Rabbi Yitzhak Kutner, il explique qu'en vérité, le Bechor, le premier-né, de ce point de vue-là, il est un deuxième père. Au sens où c'est à lui qu'incombe le travail de traduire dans le langage de la nouvelle génération l'enseignement de
du Père.
Bon, c'est les enfants qui naissent après lui, qui doivent recevoir l'enseignement du Père, mais déjà dans un langage qui leur est accessible. C'est le travail du Bechor. C'est pour ça que le Bechor, d'ailleurs, il reçoit une double part, parce qu'il a beaucoup de travail. Il va devoir se consacrer à ça. Il travaille pour les autres aussi. Donc, il faut faire ce travail-là. Et aussi, il faut faire les choses de telle sorte que la nouvelle génération, il faut l'éduquer pour qu'elle soit apte à recevoir l'enseignement et aller au-delà, être créatif. Pour développer, il faut qu'on avance dans la Torah. Sinon, on va piétiner, on va te pédaler dans la semoule. Je veux dire, c'est ça quoi? Ça sert à rien. Moshe Rabbeinu a montré au Bnei Israël comment il obtenait par le travail de la Torah, toute la Torah orale, comment il obtenait des lois, des mishpatim. Il leur a montré comment faire pour qu'eux le fassent à leur tour. Et il le dit, le mantichiu, pour que vous viviez. C'est la condition de la vie du Klal Israël. Il faut que ils arrivent, quand on atteint une certaine forme de perfection là-dedans, on arrive à une jouissance qui vient de la proximité avec Hachem. On travaille la parole d'Hachem. Ben, l'étude, c'est avoir la parole d'Hachem en bouche. Tout sentiment spirituel, enfin toute sensation, tout développement spirituel dans la vie intensifie la vie elle-même. Sans ça, l'homme est un animal. Et un juif qui perd cette sensibilité spirituelle, il est mort. Considéré comme mort. Le Netzil écrit que Israël sans Torah, il n'est même pas chai, il n'est même pas vivant. C'est même pas un corps vivant. Plus fort raison, ce n'est pas un homme, c'est pas Adam. Alors, on peut accéder à cette proximité par des korbanot, par exemple. Mais Moshe Rabbé nous dit, on peut faire mieux. On peut faire mieux parce que, par l'étude, on peut faire mieux. On peut y arriver, mais par l'étude. Et c'est mieux d'y arriver par l'étude. En fait, terminer avec ça peut-être. On a parlé de route. La Gemara dit la chose suivante. Le roi Balak, c'était le roi qui avait pensé qu'il serait protégé par rapport à l'invasion éventuelle des Bnei Israël, par Og, Melech HaBashan, par Og, qui était une puissance. Il se dit, moi je suis planqué derrière, il ne va rien m'arriver. Mais quand Og a été balayé complètement, il a complètement paniqué, et il s'est demandé, qu'est-ce que je peux faire? Je vais être balayé complètement moi aussi. Alors il s'est renseigné, il s'est demandé, que ces Juifs-là, enfin, c'est pas encore des Juifs à ce moment-là, ces Hébreux, qui les dirige, en fait, ce Moshe qui les dirige, quelle est sa force? Alors on lui a dit, sa force est sa parole. Alors il a cherché quelqu'un qui pourrait mettre une parole contre la parole de Moshe. Alors il a pris le fameux Bilam, le prophète des nations, celui qui, en français, ils appellent ça Balaam, enfin, il s'appelle Bilam. Et il a demandé à Bilam de... Il a dit, je veux que tu maudisses ce peuple. Alors ils ont cherché, pour pouvoir maudire, il fallait que la malédiction, si vous voulez, elle ait une accroche. Donc il faut trouver quelque chose de négatif à dire sur les Bnei Israël, pour que s'accrochant là, on puisse passer la malédiction. Alors ils ont tourné autour du campement des Bnei Israël, pour trouver un point de vue, comme avec un appareil photo. Chercher un point de vue, on pourrait faire une image négative des Bnei Israël. Ils n'en ont pas trouvé. Mais à chaque fois qu'ils se sont arrêtés pour chercher à faire une image, Bilham a demandé à Balak de lui construire un autel, un misbéach, un autel, sur lequel il a amené des korbanot, des sacrifices. Et il a amené des sacrifices. Et en tout, il a amené 42 sacrifices, Balak. Mais c'est un peu paradoxal. Il amène des sacrifices, ça veut dire, il veut s'approcher. Pour nous, sacrifice, c'est pas le bon mot. Hein. C'est un korban, c'est une procédure d'approche. Karov, ça veut dire proche. Il essaie de s'approcher d'Hachem pour obtenir quoi d'Hachem? Pour qu'Hachem l'aide à quoi? À détruire le peuple d'Hachem. D'accord? C'est ce qu'il essaie en train de demander. Bon, ce paradoxe-là, il existe aussi dans le blasphème, etc. Bon, on ne va pas maintenant s'arrêter là-dessus. C'est ce qu'il a demandé. Il a donc apporté 42 korbanot. Approché 42 korbanot. Et la Gemara dit, par le mérite, écoutez bien, par le mérite de ces 42 korbanot, Balak a eu, dans ses descendants, il a eu Ruth. Celle dont je vous ai parlé. Balak, c'était le roi de Moab. Donc, dans son descendant, il a une princesse de Moab qui, en fait, s'est convertie ensuite. Et il a cette princesse, dans ses descendants, qui va devenir la mère de la royauté du clan d'Israël. Elle est l'ancêtre de David, l'ancêtre du Mashiach. On nous dit comment ça s'est passé. C'est Balak qui a le mérite de Ruth, de produire Ruth. C'est incroyable. Ce type-là, il fait des korbanot pour détruire le clan d'Israël, et on lui donne un mérite pareil. C'est ce que je vous ai dit précédemment. Le korban, il est parfait. Le korban, il marche tout seul. Il a fait le korban comme il fallait le faire. Il était kasher, son korban. Ah, il avait des intentions, ah bon. Sa petitesse a ajouté des intentions à cette chose-là. Cette chose-là est tellement grande, par elle-même, que la petitesse n'y fait rien. C'est important. Mais c'est pas fini. Ce que je voulais rapporter, c'est la chose suivante. C'est que nous, on a l'impression, dans la Gemara dit, là, comme mérite, route. Oh, très bien. Mais Rashi dit autrement. Rashi dit, pourquoi est-ce que Ruth s'appelle Ruth? Ruth, ça s'écrit Reish Vav Tav. Et Reish Vav, Rashi explique, c'est, on peut le voir ça comme la racine, si vous voulez, du verbe qui veut dire abreuver, si vous voulez. Ruth s'appelle Ruth parce qu'elle a produit dans ses descendants à elle. Elle a produit David. Chez Riva la Kadosh Baruch Hu Beshirim Vetish Barot. Qui a abreuvé Hachem avec ses chants et ses louanges. Rashi ne s'est pas contenté de. Rashi dit plus que ce que la Gemara dit, semble-t-il. S'il l'a dit, c'est qu'il pense que c'est dans la Gemara. Mais c'est beaucoup plus. Ça veut dire que Balak a produit David. Il a produit les Teilim de David, les psaumes de David. Balak a produit les mots de David. Les Teilim de David, c'est au monde des émotions, disait mon maître, c'est la même chose. Vous voulez que la Torah dans le monde courant, en fait, dans le monde des actions. C'est-à-dire, David est celui qui a donné une expression à toutes les situations dans lesquelles on peut se trouver. Malheureusement pour lui, il a expérimenté pratiquement toutes ces situations. Mais du coup, il a mis des mots dessus. Et depuis toujours, les Bnei Israël, quand ils ont besoin de mettre des mots sur des souffrances ou des joies, qui se réfère au Tehillim, au Psaume. Même les Goïm, quand Bach veut écrire quelque chose, il prend aussi les psaumes. Et donc il y a cette chose extraordinaire que les korbanot de Balak ont produit les mots. Donc on a passé des korbanot aux mots. On a passé de quelque chose qui est quand même très matériel, même si on veut leur donner une dimension spirituelle, on a passé aux mots. Alors on a passé par des mots. Mais c'est exactement ce que nous faisons nous aujourd'hui avec la tefila, avec la prière. Les trois prières quotidiennes, elles remplacent les korbanot, le korban tamid, et le fait de le brûlement de tout ce qu'il y avait sur le misbère pendant la nuit, pour la prière de Arvit. Donc on a remplacé les korbanot par des mots. Donc si vous voulez, on est maintenant complètement dans le monde des mots, dans le monde de l'expression. On a appris à mettre des mots sur toutes les situations. Et on travaille avec les mots, on travaille avec la parole. C'est ça maintenant, comme si la puissance de Moshe, qui était celui qui, comme on l'a dit à Balak, c'est la puissance de Moshe, c'est la parole. Désormais, cette parole, elle est dans tout le clan d'Israël. Elle était mise à la portée et à disposition de tout le clan d'Israël. C'est ça le progrès, en fait. La chose extraordinaire, Rashi n'a pas voulu mettre tellement l'accent sur la notion de Mashiach, etc. C'est plus important de mettre l'accent sur les Tehillim de David que de mettre l'accent sur le Mashiach. D'accord. Aujourd'hui, on est dans un monde où on fait tout pour le Mashiach, mais c'est plus important, ce que Rashi enseigne, c'est plus important de s'occuper de mettre des mots, les mots corrects, la tfila, la prière, les mots corrects dans l'expression de toutes les situations dans lesquelles on est, de toutes les émotions, de toutes les joies, les peines, etc., les douleurs, mettre tout ça en mots, c'est absolument fondamental. Désolé, j'ai dépassé les bornes.